Ultime stratagème, soyez personnel, insultant, malpoli. Lorsque l'on se rend compte que l'adversaire nous est supérieur et nous ôte toute raison, il faut alors devenir personnel, insultant, malpoli. Cela consiste à passer du sujet de la dispute, que l'on a perdu, au débatteur lui-même en attaquant sa personne. On pourrait appeler ça un argument ad personam pour le distinguer de l'argument ad hominem. Ce dernier passant de la discussion objective du sujet à l'attaque de l'adversaire en le confrontant à ses admissions ou à ses paroles par rapport à ce sujet. En devenant personnel, on abandonne le sujet lui-même pour attaquer la personne elle-même. On devient insultant, malveillant, injurieux, vulgaire. C'est un appel des forces de l'intelligence dirigé à celle du corps ou à l'animalisme. C'est une stratégie très appréciée car tout le monde peut l'appliquer et elle est donc particulièrement utilisée. On peut maintenant se demander quelle est la contre-attaque, car si on a recours à la même stratégie, on risque une bataille, un duel, voire un procès pour diffamation. Ce serait une erreur que de croire qu'il suffit de ne pas devenir personnel soi-même. Car montrer calmement à quelqu'un qu'il a tort et que ce qu'il dit et pense est incorrect, processus qui se retrouve dans chaque victoire dialectique, nous l'aigrissons encore plus que si nous avions utilisé une expression malpolie ou insultante. Pourquoi donc ? Parce que, comme le dit Hobbes dans son « Du citoyen » chapitre 1, « Pour l'homme, rien n'est plus grand que de satisfaire sa vanité, et aucune blessure n'est plus douloureuse que celle qui y est infligée. » De là viennent des expressions comme « L'honneur est plus cher que la vie », etc. La satisfaction de cette vanité se développe principalement en se comparant aux autres sous tous aspects, mais essentiellement en comparant la puissance des intellects. La manière la plus effective et la plus puissante de se satisfaire se trouve dans les débats. D'où l'aigreur de celui qui est battu et son recours à l'arme ultime, ce dernier stratagème, on ne peut y échapper par la simple courtoisie. Garder son sang-froid peut cependant être salutaire. Dès que l'adversaire passe aux attaques personnelles, on répond calmement qu'elles n'ont rien à voir avec l'objet du débat. On y ramène immédiatement la conversation et on continue de lui montrer à quel point il a tort, sans tenir compte de ses insultes, comme le dit Thémistocle à Eurybiade, mais ce genre de comportement n'est pas donné à tout le monde. Le seul comportement sûr est donc celui que mentionne Aristote dans le premier chapitre de son Topique. De ne pas débattre avec la première personne que l'on rencontre, mais seulement avec des connaissances que vous savez posséder suffisamment d'intelligence pour ne pas se déshonorer en disant des absurdités, qui appelle à la raison et pas à une autorité, qui écoute la raison et s'y plie, et enfin qui écoute la vérité, reconnaissant avoir tort, même de la bouche d'un adversaire, et suffisamment juste pour supporter avoir tort si la vérité était dans l'autre camp. De là, sur 100 personnes, à peine une mérite que l'on débatte avec elle. On peut laisser le reste parler autant qu'ils veulent, et il faut se souvenir de ce que disait Voltaire, « La paix vaut encore bien mieux que la vérité », et de ce proverbe arabe « Sur l'arbre du silence pendent les fruits de la paix ». Le débat peut cependant souvent être mutuellement avantageux lorsqu'il est utilisé pour s'aiguiser l'esprit et corriger ses propres pensées pour éveiller de nouveaux points de vue. Mais les adversaires doivent alors être de forces égales, que ce soit en niveau d'éducation ou de force mentale. Si l'un manque d'éducation, il ne comprendra pas ce que lui dit l'autre et ne sera pas au même niveau. S'il manque de force mentale, il s'aigrira et aura recours à des stratagèmes malhonnêtes ou se montrera malpoli.